Vous écoutez, on lit pour vous.
Les découvertes induites par les éclipses solaires totales. Un texte de Pauline Gravel paru le 6 avril 2024 dans Le Devoir. Depuis le Moyen Âge, l'observation des éclipses totales de soleil, comme celle qui a eu lieu le lundi 8 avril 2024 dans le sud du Québec, a permis de grandes découvertes scientifiques. Elle a également mis en évidence des phénomènes physiques énigmatiques qui n'ont toujours pas été résolus à ce jour. Une éclipse solaire totale est une occasion unique de voir la couronne solaire. Au moment où la Lune masque entièrement le disque solaire, il devient alors possible de l'observer. Environ 1 million de fois moins lumineuse que la sphère du Soleil, la couronne solaire est invisible en plein jour, notamment parce que nos yeux sont avant tout éblouis par la brillance du soleil. La première mention écrite de l'existence de la couronne solaire figure dans les annales de la cour de Constantinople, en date du 22 décembre 968. On la décrit comme un mince anneau brillant encerclant le disque du soleil devenu noir et sans lumière qui apparaît au moment d'une éclipse. La couronne solaire est en fait l'atmosphère entourant la sphère du Soleil. Il s'agit d'une atmosphère très étendue et distendue qui s'étire sur une distance allant jusqu'à 2 fois le rayon de la sphère solaire. Elle se compose de plasma, c'est-à-dire de gaz très chaud, principalement de l'hydrogène, où la majorité des atomes ont perdu leurs électrons, précise le professeur au département de physique de l'Université de Montréal, Paul Charbonneau, expert mondial de la physique solaire. Des écrits datant de l'éclipse du 1er mai 1185 font état de braises ardentes qui sont apparues autour du disque solaire obscurci par la Lune lorsque l'éclipse est devenue totale. À cette époque, on croyait qu'il s'agissait de nuages de l'atmosphère lunaire qui étaient éclairés par le soleil, rappelle M. Charbonneau. Mais lors de l'éclipse du 2 mai 1733, à l'aide d'un télescope muni d'un filtre, l'astronome Birger Wassenius décrit avec plus de précision ces structures présentes dans l'atmosphère solaire qu'on appelle aujourd'hui protubérances. Les protubérances qui apparaissent lors des éclipses sous la forme de structures très brillantes au sein de la couronne sont en fait des accumulations de plasma qui se retrouvent confinées par le champ magnétique du Soleil, explique le spécialiste. C'est toutefois la première photographie prise d'une éclipse en 1851 qui permet de démontrer une fois pour toutes que la couronne visible lors de la totalité de l'éclipse est bien celle du Soleil, et non celle d'une atmosphère étendue de la Lune, et que les protubérances se situent dans l'atmosphère solaire et non dans celle de la Lune. Cette confirmation donne un élan à la science du Soleil et des éclipses. Lors de l'éclipse du 18 août 1868, Norman Lockyer et Jules Janssen se servent de la spectroscopie, une technique récemment mise au point à l'époque pour observer le spectre d'une protubérance présente dans la couronne solaire. Ils y décèlent une raie spectrale qui ne correspond à aucun élément chimique connu jusqu'alors sur Terre. Ils attribuent cette raie à un nouvel élément qu'ils nomment hélium, en l'honneur d'Hélios, le dieu grec du soleil. L'hélium découvert dans la couronne solaire fut finalement isolé et identifié en laboratoire en 1895, précise M. Charbonneau. 1 million de degrés Celsius. En 1869, Charles Young et William Harkness repèrent à leur tour dans le spectre de la couronne solaire une raie qui, encore une fois, n'est liée à aucun élément chimique reconnu. Ils associent cette raie spectrale à un nouvel élément qu'ils nomment coronium. Mais en 1941, deux spécialistes de la spectroscopie à très haute température et à très haute pression, Walter Grotrian et Bengt Edlen, découvrent que le spectre jusque-là associé au coronium coïncide en fait avec les raies du fer et du nickel se trouvant dans un état hautement ionisé. Par cette observation, ils prouvent que le coronium n'est pas un nouvel élément. Pour que le fer et le nickel se retrouvent dans un tel état d'ionisation où ils ont perdu plusieurs électrons, la température doit être d'au moins 1 million de degrés Celsius. La découverte de Grotrian et Edlin indiquait donc que les températures au sein de la couronne solaire atteignent d'un à 2 millions de degrés Celsius, fait remarquer M. Charbonneau. Étant donné que la température à la surface du Soleil n'est que d'environ 6000 degrés Celsius, l'énergie émise par le Soleil n'est donc pas suffisante pour chauffer du plasma à 1 million de degrés par des processus thermodynamiques. On ne sait toujours pas ce qui cause une telle surchauffe. C'est une des grandes questions en physique solaire qui n'est toujours pas résolue. Deux hypothèses ont été proposées, mais aucune des deux n'est vraiment convaincante. La question demeure un sujet de recherche très actif, ajoute-t-il. Les gaz de la couronne qui sont chauffés à des températures allant d'un à 2 millions de degrés ne peuvent pas demeurer en place autour du Soleil, contrairement à ceux de l'atmosphère de la Terre qui sont froids et qui, par conséquent, sont maintenus autour de la planète par la gravité de celle-ci, souligne M. Charbonneau. L'astrophysicien Eugene Parker a démontré en 1958, par des calculs théoriques, que les gaz de la couronne solaire, en raison de leur très haute température, se disséminent dans l'espace interplanétaire, formant ainsi un vent solaire qui accélère et atteint une vitesse supersonique lorsqu'il s'approche de la Terre. L'existence de ce vent solaire ainsi que sa vitesse ont par la suite été confirmées par les sondes LUNIC en 1960, Explorer 10 en 1961 et Mariner 2 en 1962. La théorie de la relativité générale. Mais la contribution scientifique la plus marquante découlant de l'étude des éclipses solaires totales est probablement la confirmation de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Cette théorie faisait des prédictions vraiment bizarres, dont celle affirmant qu'à proximité d'une grosse masse, comme le Soleil par exemple, l'espace-temps est déformé et les rayons lumineux qui normalement se déplacent en ligne droite sont légèrement déviés, résume le physicien. La théorie d'Einstein prédisait que, lors d'une éclipse, un rayon lumineux provenant d'une étoile qui passerait près du Soleil subirait une déviation, ce qui ferait en sorte que l'on verrait l'étoile à une position dans le ciel qui serait légèrement différente de celle où elle est véritablement. La déviation provoquée par la masse du Soleil qui était prédite par la théorie était de 0,000472 degrés sur un rapporteur d'angle, une minuscule déviation qui a été mesurée lors de l'éclipse de 1919 à deux endroits différents, précise M. Charbonneau. Les éclipses totales de Soleil n'ont probablement pas fini de faire courir les scientifiques et d'éblouir les simples observateurs. C'était « Les découvertes induites par les éclipses solaires totales ». Un texte de Pauline Gravel paru le 6 avril 2024 dans Le Devoir.
Aquaforme, un exercice particulièrement bénéfique pour les 50 ans et plus, un texte de Louise Poirier, paru le 25 mars 2024 dans le magazine Avenue.ca. Si vous croyez que les cours d'aquaforme ressemblent à une séance de bougeotte dans la piscine, d'un tout inclus, avec un verre à la main, vous êtes dans les limbes. L'exercice dans l'eau est vraiment efficace et est particulièrement bénéfique pour les 50 ans et plus, pour les femmes comme pour les hommes. Sautez dans l'eau avec moi pour en découvrir tous les secrets. C'est quoi l'aquaforme? Il y a une très grande variété de cours d'aquaforme convenant à n'importe qui, que l'on soit nageur ou non, en bonne forme ou non, avec de petits bobos ou non. Ces cours se donnent dans la partie peu profonde des piscines. Il n'est donc pas nécessaire de mettre sa tête dans l'eau. La plupart des piscines publiques ou privées offrent ces cours et mettent à votre disposition tout l'équipement nécessaire. Les professeurs sont parfois des kinésiologues, mais plus souvent des moniteurs de natation ou de conditionnement physique qui ont suivi des formations spécialisées. Ils se tiennent tantôt en dehors de l'eau pour vous permettre de bien voir les mouvements, tantôt dans l'eau pour être plus près de vous et mieux vous corriger. Et c'est l'eau qui est la grande vedette de l'aquaforme. Les principes de l'exercice dans l'eau. Même si cela peut paraître contradictoire, l'eau rend l'exercice à la fois plus facile et plus difficile. Plus facile à cause de l'effet d'apesanteur. Quand on est debout dans l'eau, selon le degré d'immersion du corps entre les hanches et le cou, le poids du corps diminue de 50 à 80. Tout redevient possible, comme les sauts, le jogging, même pour les gens qui ont du surpoids. Il y a zéro risque de chute ou de blessure. Caroline Beauchamp, qui enseigne l'aquaforme depuis 25 ans dans la région de La Naudière, a réalisé que tout le monde, chez les 50 ans et plus, avait un petit bobo quelque part. L'apesanteur soulage les tensions et diminue la douleur. Quelqu'un qui a mal aux genoux, aux hanches ou au dos se sent capable de refaire les exercices qui causaient des problèmes en dehors de l'eau. Dans l'eau, il n'y a plus d'impact, ce qui permet à bien des personnes en attente d'une chirurgie pour une articulation ou après celle-ci, de garder la forme, avec l'accord de leur médecin, bien sûr. Plus difficile, à cause de la résistance de l'eau. L'eau étant plus dense que l'air, elle oppose une résistance 4 fois plus grande. Plus les mouvements sont rapides, plus la résistance augmente. L'utilisation de certains équipements spécialisés en polystyrène, comme des haltères, des nouilles, des gants palmés, augmente encore plus la résistance. C'est impossible de ne pas y trouver son compte. Pour Olivier Furoy, professeur d'aquaforme à la Sporttech de Gatineau, l'important c'est d'abord d'apprendre à bien exécuter les mouvements. Il faut ancrer ses pieds dans le fond de la piscine, ce qui engage les abdominaux et permet de rester bien droit, en équilibre. Ensuite, il faut se donner le temps de comprendre le principe de la résistance de l'eau pour chercher à la maximiser en fonction de son niveau de forme. Si on ne triche pas, c'est vraiment payant. Par exemple, si on fait des exercices de bras dans l'eau avec les poings fermés, c'est beaucoup moins difficile que si on garde les mains ouvertes, doigts collés. Les autres avantages de l'eau. Beaucoup de gens aiment le fait de ne pas transpirer dans l'eau, ajoute Anne-Marie Boulard, qui a enseigné dans l'eau pendant 35 ans à Montréal. Et c'est vrai. Même si l'exercice dans l'eau nous fait travailler fort, on y transpire de 10 à 12 fois moins que dans l'air. La transpiration a pour but de refroidir le corps lorsqu'il surchauffe. L'évaporation étant impossible dans l'eau, elle fait plutôt baisser la température du corps par conduction, étant à une température plus basse que celle du corps. Anne-Marie ajoute que l'aquaforme développe symétriquement tous les muscles du corps. Si un côté du corps est plus faible que l'autre, on le voit tout de suite à cause du déséquilibre que cela crée dans le mouvement. Il faut s'auto-corriger pour rester droit et développer un tonus équilibré. Dans l'eau, on peut exécuter des mouvements plus amples que dans l'air, créer un effet de massage sur tout le corps et dire adieu aux courbatures, ce qui facilite la récupération. La coordination est aussi continuellement mise à contribution. Finalement, on perçoit moins la notion de souffrance associée parfois au sport, ce qui permet d'en augmenter l'intensité sans vraiment s'en rendre compte. Oui, messieurs, c'est bon pour vous. Il y a assurément plus de femmes que d'hommes dans les cours d'aquaforme. Pourtant, Olivier Furoy est catégorique. C'est aussi bon pour les hommes que pour les femmes. Les hommes ont beaucoup de fausses perceptions. Des clichés perdurent. Quand ils l'essaient, ils réalisent qu'ils peuvent eux aussi travailler fort. Il donne en exemple Georges Saint-Pierre, le célèbre combattant de l'UFP, Ultimate Fighting Championship, qui a popularisé l'entraînement dans l'eau pour les athlètes. Ses vidéos sur Internet le montrent faisant plein d'exercices, utilisant intensément à la fois l'apesanteur et la résistance de l'eau. Il ménage ainsi ses articulations et cumule plus d'entraînement. Alors, messieurs, c'est un pensez-y bien. Diverses spécialités. Voici quelques-unes des spécialités de l'aquaforme. Aqua Zumba. La Zumba, qui est une marque déposée, privilégie des exercices cardiovasculaires et musculaires dansants sur une musique latino-américaine rythmée. Il existe une version aquatique de la Zumba, particulièrement intéressante car dans l'eau, personne ne voit si vous manquez vos pas. Aqua Tabata. C'est une méthode d'entraînement japonaise de type fractionné, courte et intense. Elle consiste à répéter 8 fois 20 secondes d'effort maximal, suivi de 10 secondes de repos. Cette séquence, qui totalise 4 minutes, est reprise plusieurs fois avec des exercices aérobiques ou musculaires. Le temps passe vite, c'est garanti. Aquastep. C'est une variante dans l'eau du step en salle. On monte et descend sur une plateforme adaptée à l'eau tout en enchaînant différentes chorégraphies avec de la musique. C'est demandant sur les plans cardio et musculaires, surtout pour le bas du corps. Aquavélo. Il est plus rarement offert, car les vélos stationnaires adaptés à l'eau coûtent cher et il faut aussi disposer d'une vaste partie peu profonde en piscine pour l'offrir à un groupe. Ces cours ressemblent beaucoup à des cours de spinning. Notez que pédaler dans l'eau est beaucoup plus difficile que de pédaler dans l'air. À Montréal, le Centre Épique en offre. Il y a aussi des cours spécialisés qui se donnent pour les gens souffrant d'Alzheimer, du Parkinson, de problèmes cardiaques ou autres. Quelques conseils de base. Choisissez une piscine près de chez vous. Demandez à essayer un cours gratuitement. En groupe, c'est très motivant. Il y a aussi des vidéos disponibles sur Internet qui permettent d'élaborer son programme maison d'aquaforme. Il est bon de commencer doucement, pour apprendre à négocier son équilibre et utiliser toute la résistance de l'eau. Pour beaucoup de personnes, l'exercice dans l'eau est le meilleur. Laissez-vous séduire par l'aquaforme, car c'est efficace et sans risque de blessure. Chose certaine, personne ne se trompe en le choisissant. C'était « Aquaforme, un exercice particulièrement bénéfique pour les 50 ans et plus », un texte de Louise Poirier, paru le 25 mars 2024 dans le magazine Avenue.ca.
15 réactions étranges du corps après la mort. Un texte de Lisa Milbrand, paru dans Sélection du Reader's Digest. Tout ne s'arrête pas à votre trépas. Votre corps après la mort se transforme. Et pas de la plus belle des façons. Voici ce qui l'attend. Votre peau se décolore. Votre jolie peau changera de couleur après la mort, et sa teinte dépendra de la façon dont vous aurez perdu la vie. La gravité terrestre fera en sorte qu'elle prendra un teint pourpre-rouge où le sang s'accumulera. Si une personne meurt d'empoisonnement au monoxyde de carbone, le sang virera rouge cerise, indique Judy Melinek, pathologiste médico-légale et co-auteur de Working Stiff, 2 Years, 262 Bodies, and The Making of a Medical Examiner, l'un des meilleurs vendeurs de la liste du New York Times. Cela éclaircira également les organes internes. Les victimes d'un empoisonnement au gaz de sulfure d'hydrogène peuvent virer au vert, ajoute-t-elle. Vous risquez de gémir ou grogner. L'air qui se trouve dans votre corps, qu'elle provienne de tentatives de réanimation ou de gaz émis par les bactéries, pourrait faire vibrer vos cordes vocales lors de son expulsion par la gorge, ce qui vous fera gémir et horrifier les gens présents, selon Medical Daily. Toutefois, cela ne se produira que si quelqu'un fait pression sur votre poitrine ou vous déplace. Vos rides s'estompent. Ah, la mort! Meilleur que le Botox! Selon la publication Women's Health, vos muscles faciaux vont se détendre, ce qui lissera vos rides. Votre chevelure et vos ongles semblent continuer à pousser. Vous avez sans doute déjà entendu que nos ongles et cheveux continuaient à pousser une fois passée l'arme à gauche. C'est toutefois faux. L'une des idées fausses que j'entends le plus souvent est à propos de la pousse des ongles ou des cheveux après la mort, dit Judy Melinick. Cette idée vient de cette impression d'extension due au fait que le cuir chevelu et la peau aux extrémités s'assèchent, exposant alors plus de chevelure et d'ongles qui se trouvaient sous les tissus qui s'estompent. Vous pétez de partout. Votre corps, après la mort, relâchera de l'air, nauséabond, de toutes les ouvertures qu'il trouvera, y compris la bouche. Remerciez pour cela les bactéries qui aident à la décomposition de votre système digestif. Vos intestins et votre vessie se vident. L'idée n'est certes pas plaisante, mais c'est un fait. Après le décès, vos muscles se détendent, incluant vos sphincters. Voilà pourquoi l'urine et les excréments sortent prendre l'air pour ne jamais revenir. Votre corps après la mort se refroidit graduellement. Votre corps prendra du temps à se refroidir, perdant moins d'un degré Celsius l'heure jusqu'à atteindre la température ambiante, selon Science Alert. Vous risquez de bouger un peu. Mais non, vous ne vous transformerez pas en zombie et ne reviendrez pas des morts. Toutefois, vos muscles risquent de se contracter et de se convulser légèrement pendant quelques heures suivant l'expulsion de votre dernier souffle. De quoi inquiéter les gens dans la pièce. Votre corps sentira mauvais. C'est malheureusement inévitable. Vous ne sentirez pas la rose. Et ça pourrait arriver très rapidement. Après 2 ou 3 jours, le corps commence à se décomposer et à produire de la putrescine et de la cadavérine, des composés organiques qui, comme l'indique clairement le Washington Post, n'améliorent en rien l'air ambiant. Votre corps devient rigide. Cela ne se produit pas automatiquement, mais votre corps deviendra entièrement rigide, ce qu'on appelle le rigor mortis, environ 12 heures après la mort. Cela prendra quelques jours pour qu'il se détende de nouveau, mais d'autres problèmes seront alors perceptibles. Certaines parties de vous vivront plus longtemps. Toutes les parties qui forment votre enveloppe corporelle n'ont pas la même heure de péremption. Les yeux, le cœur, les os et la peau peuvent être transplantés sur une autre personne jusqu'à 15 heures après le décès, selon Judy. Votre corps se cannibalise. À mesure que vos cellules commencent à se défaire, elles sont digérées par les enzymes de votre système digestif et par les bactéries de votre corps. Ce phénomène peut être accéléré selon la façon dont vous avez perdu la vie. Lorsque vous succombez au sepsis, une infection bactérienne touchant tout votre corps, la putréfaction est très rapide, car les bactéries qui s'attaquent à vos tissus se sont déjà propagées, indique Judy Melinek. Ceux qui meurent d'une surdose de certaines drogues qui élèvent la température corporelle, comme les méthamphétamines, l'ecstasy ou la cocaïne, peuvent aussi subir une décomposition accélérée. Vous pourriez vous changer en savon. Voilà une affirmation bien étrange, mais véridique. Les corps laissés dans un environnement frais et humide se décomposent dans un processus chimique que l'on appelle l'adipocire, où le gras corporel se transforme en savon, dit Judy. Plutôt que de pourrir jusqu'au squelette, les corps sont bien préservés dans ce qui semble être une forme floue, grisâtre ou jaunâtre, ressemblant à de la cire. Vos yeux changent de couleur. Plusieurs meurent avec les yeux grands ouverts, et lorsque le blanc des yeux commence à sécher, il prend des teintes de bleu ou de gris, indique Judy Melinek. C'est ce qu'on appelle la tache noire, et cela fait souvent partie des examens en médecine médico-légale afin de savoir si les pathologistes sont à même de différencier des changements post-mortem normaux d'une maladie ou intoxication. La plupart d'entre vous seront de l'histoire ancienne après quelques mois. À 10 degrés Celsius, cela prendra environ 4 mois à vos tissus mous pour se décomposer complètement. Mais le processus peut s'accélérer à des températures plus élevées, nous dit le site Vox. Bientôt, vous ne serez plus que squelette, cartilage et morceaux de peau sèche. C'était 15 réactions étranges du corps après la mort. Un texte de Lisa Milbrand, paru dans Sélection du Reader's Digest.